De la parole aux actes.
Quoi qu'il en coûte.
Face à la crise de la Covid-19, Emmanuel Macron a multiplié les dépenses exceptionnelles.
Quoi qu'il en coûte.
Chômage partiel, suspension de charges ou plan de soutien au secteur en crise, l'exécutif veut limiter la casse.
Non, on va tenir. Comme le pays, on tiendra. Et on s'en sortira. C'est très difficile ce qui nous arrive. Très difficile.
Tenir, mais à quel prix? La facture de la crise sanitaire est lourde, 186 milliards d'euros. Des dépenses qui viennent creuser une dette publique abyssale. Une nouvelle commission d'experts va devoir plancher sur la trajectoire des finances de la France et le remboursement des arriérés. Sauf que la question fait débat chez les économistes et dans la classe politique. Certains militent pour une annulation pure et simple de la dette, comme la France insoumise.
Tout le monde sait que cette dette est irremboursable par le 90% de ceux qui la doivent. Il faudra donc prendre des mesures extraordinaires pour éviter que tout ne s'effondre d'un coup.
Une stratégie jugée irresponsable par le MEDEF.
La crédibilité de la France est en jeu. Les pays qui ont fait défaut une fois, on ne leur prête plus jamais d'argent. Regardez l'Argentine. Et donc, il va falloir rembourser.
Et Bercy y travaille. Le ministère des Finances assure exclure les hausses d'impôts et mise tout sur la relance de l'économie pour éponger la dette.
Bon, la meilleure façon de la rembourser, c'est déjà de retrouver de la croissance. Donc de continuer à investir dans l'économie française comme nous le faisons.
Mais à situation exceptionnelle, ne peut-on vraiment pas envisager une mesure exceptionnelle comme l'annulation de la dette? Qui va supporter le coût de son remboursement? La croissance peut-elle suffire à renflouer les caisses de l'État?
Nos deux invités, Ali, qui sont les créanciers de l'État, en l'occurrence de l'État français, Jezabel Coupé-Soubeyran, à qui la France a-t-elle emprunté? Est-ce à des États étrangers, à des organismes bancaires, à des entreprises? À qui est-ce qu'on doit cet argent aujourd'hui?
Alors, la France emprunte sur les marchés financiers, oui. D'accord? Donc, l'État français émet des titres obligataires, des titres d'emprunt, et ce sont des investisseurs privés qui achètent ces titres. Donc souvent des investisseurs financiers, professionnels, beaucoup de
des
banques.
Des individus donc.
D'accord. Beaucoup de banques qui achètent ces titres. Et ensuite...
Français et étrangères?
Bien sûr, beaucoup d'investisseurs étrangers également, beaucoup d'investisseurs professionnels, vraiment des professionnels de la finance qui détiennent ces titres. Et en ce moment, si vous voulez, ces investisseurs sont assez rassurés parce que la Banque Centrale Européenne est là pour intervenir, non pas sur le marché de l'émission, sur le marché primaire, mais sur le marché de l'occasion, en quelque sorte, là où les investisseurs veulent revendre les titres qu'ils possèdent. La Banque Centrale Européenne rachète effectivement une partie de ces titres, et donc aujourd'hui, on a à peu près, si vous voulez, 20% de la dette publique française, par exemple, à l'actif de la Banque Centrale Européenne. D'accord. Et plus globalement, la Banque Centrale Européenne détient à peu près 40 à 50% des dettes publiques de l'ensemble des pays de la zone euro.
Vous voulez préciser autre chose?
Oui, je voulais préciser parce que 20% c'est la Banque Centrale, les 80% qui restent, vous en avez 40% qui sont entre les mains d'investisseurs étrangers, dont le principal c'est le fonds souverain norvégien. Donc on doit de l'argent à la Norvège. Et puis les 40% qui restent, c'est vous et moi, parce que le principal intervenant sur ce marché c'est la CNP. La Caisse nationale de prévoyance. Et donc cette dette, elle est détenue ensuite par les particuliers au travers de l'assurance.
Des personnes.
Et donc si on annule une partie de la dette, ça dépend sur qui on fait porter cette annulation, mais si on la fait porter sur l'assurance,
c'est
vous et moi qui allez en payer les conséquences.
Bien sûr qu'il ne faut pas la faire porter sur des créanciers privés.
Alors, d'accord. Ça, c'est pour tout à l'heure, mais d'abord, c'est un chiffre, le fameux chiffre sur lequel tout le monde, à propos duquel tout le monde s'inquiète.
Mais 120. Je vais vous rappeler tout de suite, 120, en effet, 120%, car la dette française devrait représenter près de 120% du PIB du pays, c'est-à-dire des richesses produites par le pays en 2020. Et donc, ce chiffre de 120% devrait être atteint, là, dans quelques semaines, à la fin de l'année, selon le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Jean-Marc Daniel, prenez votre casquette de professeur, expliquez-nous qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une dette de 120% des richesses françaises. Qu'est-ce que ça veut dire?
On utilise en général ce ratio, la dette sur le PIB, parce que normalement le PIB, c'est ce qui va permettre à l'État de se procurer des ressources. Donc la dette, c'est
les
contraintes
de
rembourser et de commencer par payer les intérêts. Parce que l'État, en général, il rembourse pas. Chaque fois que des titres arrivent à échéance, il les réémet immédiatement et la seule obligation qu'il a, c'est de payer les intérêts. Et donc d'ailleurs, dans le budget de l'État, vous avez une somme de 38 milliards
consacrée,
non pas à rembourser, mais purement et simplement
des intérêts.
À payer les intérêts. Donc, concrètement, pourquoi on prend cet indicateur? Parce que les ressources de l'État qui vont permettre à nourrir ces 38 milliards, elles sont assises sur le PIB. Et la dette qui génère ses intérêts, on va la mettre en regard de ses ressources potentielles de l'État. Mais le véritable enjeu, encore une fois, c'est plus les intérêts en tant que tels que... Et deuxième remarque, sur l'évolution récente, vous avez le fait que la dette a augmenté, mais le PIB a baissé, lui. Et donc, la dette a augmenté parce qu'on a beaucoup dépensé et parce qu'il y a beaucoup moins de
recettes. Et il y a moins de revenus, il y a moins de recettes. Mais on peut s'endetter jusqu'à...
Bah, jusqu'où on ne le sait pas, au fond. Oui. En fait, on ne sait pas jusqu'où on peut s'endetter. C'est-à-dire que le seuil, si vous voulez, au-delà duquel ça craque, au-delà duquel les investisseurs commencent à douter de la capacité de remboursement de l'État, ce seuil-là, personne ne l'a démontré.
Mais il y a des pays qui ont une dette bien plus considérable. Le Japon, par exemple.
Tout à fait. Donc, c'est très variable. Mais on sait une chose. La chose que l'on sait, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. D'accord ? Et donc, à un certain moment, effectivement, le fait de cumuler de la dette sur de la dette, ça peut poser un problème. Et si vous voulez, il ne s'agit pas de dire que la dette en soi est un mauvais instrument de financement. Ce n'est pas ça, le point. Il s'agit plutôt de faire remarquer que... quand on cumule de la dette à la dette, ça peut poser un problème. Donc ce n'est pas la dette en soi qui pose problème, c'est vraiment l'accumulation de dette, la dynamique de la dette. Et aujourd'hui, on est dans une gestion de crise sanitaire qui, finalement, suit une gestion de crise financière. Et donc on est entré dans cette crise avec des finances publiques déjà pas mal dégradées par la gestion de la crise précédente.
Alors, on va s'intéresser, à travers Thibonol, qui le passe au rayon X, à Monsieur Crise, d'une certaine...
Mais on nous dit aussi, on ne va pas toucher aux impôts, on n'augmentera pas les impôts et on ne baissera pas les dépenses de l'État. Alors, comment on va faire pour rembourser? Expliquez-nous.
Alors, en fait, quand on dit on n'augmentera pas les impôts, ça veut dire qu'on n'augmentera pas les taux de prélèvement. Mais les impôts augmentent quand il y a de la croissance. C'est ce que nous disait Bruno Le Maire. Si la base taxable augmente grâce à la croissance économique...
Mécaniquement,
les recettes augmentent et donc on peut rembourser. Elle peut augmenter aussi la base taxable de façon artificielle avec l'inflation. Quand vous regardez la dette depuis la dernière fois qu'on a annulé de la dette en France, c'était en 1797. Et puis les Républicains, je renvoie ça à M. Mélenchon et Montebourg, la constitution de la Deuxième République, qui était une république, et c'était des vrais républicains, prévoit dans son article 14 que la dette est garantie et que la parole de l'État est inviolable. Donc, vis-à-vis de ses créanciers, est inviolable. Donc, je renvoie ces messieurs à la lecture de la Constitution républicaine de la Deuxième République. La deuxième façon, effectivement, ce qu'on a fait au XXe siècle, ça a été de faire énormément d'inflation. Au XIXe siècle, on faisait des efforts, on contenait la dépense publique. Au XXe siècle, on faisait de l'inflation. Donc, un des enjeux aussi, c'est est-ce que... on peut et on doit faire de l'inflation si on veut se débarrasser de cette dette.
Alors, oui, justement, Jezabel Coupé-Soubéran, l'inflation, normalement, la BCE veille pour qu'il n'y en ait pas. Est-ce que vous pensez que ça peut se résorber par l'inflation?
Mais le problème actuel, si vous voulez, c'est pas l'inflation. Le problème actuel, c'est le contraire. C'est la déflation. Et donc, de l'inflation, il n'y en a pas.
C'est-à-dire que pour l'instant, les prix sont plutôt en train de baisser que d'augmenter.
Exactement. Et donc, de l'inflation, il n'y en a quasiment plus. On n'en aura sans doute pas pendant longtemps. En tout cas, tant qu'on vit dans des économies qui sont très financiarisées, où l'argent circule surtout, en fait, sur les marchés financiers, eh bien, cette circulation de l'argent fait que ce ne sont pas les prix des biens et services qui augmentent.